Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jason Pédagogie Numérique. Nous allons parler d'un projet mené par trois enseignants du Cégep de Saint-Laurent qui sont de disciplines différentes, Fanny Jousmet qui est en sociologie, Michel Jean en philosophie et Pierre-Marc Gosselin en génie électrique. Alors ce projet, il a été conçu en réponse à un appel pour développer des outils pédagogiques autour de l'IA. L'objectif des porteurs du projet était de fournir aux étudiants et aux étudiantes une compréhension globale des enjeux de l'IA, et cela s'est déroulé à travers un cours complémentaire transdisciplinaire. Notre invité aujourd'hui sera Michel Jean, un membre de l'équipe qui va nous parler de ce projet dans son étendue. Alors je vous souhaite une bonne écoute. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. C'est pas souvent qu'on a des enseignants dans le balado. On veut en entendre un peu plus, mais aujourd'hui on va pouvoir échanger sur un sujet, le sujet dont on parle depuis déjà, je pense que ça va faire c'est ça un an sans arrêt de l'intelligence artificielle, mais on va en parler vraiment avec, je dirais, une application d'un cas d'usage en enseignement. Mais avant de commencer, j'aimerais tout savoir sur vous, comment vous en êtes arrivé à enseigner et à vous lancer dans un projet.
Bon, ben, d'abord, comment je suis arrivé à enseigner, ça, c'est une histoire qui est un peu longue, là. C'est vraiment le hasard. Ben, en fait, j'ai commencé à enseigner aux Îles-de-la-Madeleine, dans un cégep, un centre de Gaspé. Et puis, c'est pas anodin dans la mesure où, justement, dans ce cégep-là, j'étais le seul enseignant philo. Et on avait un département qui était un département multidisciplinaire. Donc, mes collègues, c'était des collègues d'autres disciplines, de disciplines différentes et tout ça. Et
en sciences humaines.
Pas en sciences humaines, en formation générale. En formation générale, il y avait des enseignants également en sciences humaines, tout ça. Donc, c'était très, très collégial et en même temps, ça nous permettait d'échanger entre nous sur nos disciplines, tout ça. Et les étudiants ne savaient pas, mais c'est quelque chose qui était très enrichissant pour, justement, leur formation. T'sais, chaque prof savait un peu ce que les autres enseignants donner comme matière, qu'est-ce qu'il voyait. Donc, un étudiant ne peut pas me dire, mais j'ai pas vu ça dans mon cours de français, j'avais parlé au prof de français la journée même, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une dynamique très particulière. C'est ça. Ensuite, j'ai commencé à travailler au Cégep Saint-Laurent. Plusieurs années plus tard, c'est là que le projet est arrivé, le fameux projet.
Oui, ah ouais, c'est ça. C'est un projet qui est arrivé comme en même temps qu'on avait l'arrivée de l'intelligence artificielle générative en enseignement et en éducation. Et c'est en ça où j'ai commencé, de par ma veille, à regarder. Puis j'ai vu qu'effectivement, il y avait eu un projet, ce projet porté par le Cégep de Saint-Laurent. En vous posant la question de comment vous en êtes arrivé à l'enseignement, vous étiez déjà à l'initiale, déjà dans un terreau d'approche pluridisciplinaire ou transdisciplinaire. Ça va dépendre de comment c'était fait. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce projet. Vous allez tout nous dire sur le projet et comment ça se fait qu'il arrive dans un pile poil au moment où on a besoin d'avoir des cas d'usage de l'intelligence artificielle en enseignement.
En fait, ce projet-là est vraiment antérieur au boom qu'on pourrait dire, le ChatGPT, tout ça. Il a commencé à prendre naissance en 2018. Et là, je dois rendre justice à l'initiatrice du projet qui était notre directrice des études de l'époque, Carole Lavallée, qui, elle, croyait beaucoup à la culture numérique, à l'intégration des nouvelles technologies en enseignement, etc. Et en 2018, il y a eu une ouverture de projet par le PIA, le pôle montréalais d'enseignement en supérieur en intelligence artificielle. Je pense que l'acronyme a changé depuis le temps, là, mais c'est ça.
Oui, c'est maintenant devenu le PIM, effectivement. Mm-hmm.
Et puis, Carole Lavallée avait vraiment le désir de monter un projet. À ce moment-là, c'était encore là, très, très, comment je pourrais dire, il n'y avait pas de ligne très définie, mais un projet, justement, axé autour de la culture numérique. À la base, elle est allée chercher tout de suite un enseignant à Saint-Laurent, un petit programme en Internet et robotique. Donc, elle est allée chercher Pierre-Marc Gosselin. Et là, tranquillement, les choses sont mises en place. Et l'idée d'un cours transdisciplinaire, parce que je pense que c'est vraiment plus transdisciplinaire que multidisciplinaire, sur l'intelligence artificielle. Donc, vraiment, qui amènerait les étudiants à avoir un regard critique face à l'intelligence artificielle. Et là, tranquillement, l'équipe s'est mise en place. En fait, moi, je suis arrivé là un peu par hasard. J'ai une de mes collègues qui avait parlé à Carole Lavallée qui dit, bon, mais Michel Jean, dans son cours d'éthique, il aborde déjà les questions de l'éthique de l'IA. Ça fait que
D'accord.
peut-être qu'il serait
C'était
intéressé
déjà
par ça.
intégré dans le programme? Excuse-moi,
Non,
c'était déjà intégré dans le programme initial?
en fait, le dernier cours de philosophie est un cours d'éthique adapté au programme.
D'accord.
Et donc, moi, souvent, je donne le cours d'éthique avec les étudiants en sciences de la nature. Et parmi les thèmes que j'aborde, ben, j'abordais les questions de l'éthique de l'intelligence artificielle. Ça allait rejoindre les étudiants, et puis,
Oui.
bon. Donc, c'était quelque chose que j'abordais déjà un peu. Donc, on a dit, bon, est-ce que ça t'intéresse? Oui, on est allé chercher également une prof de sociologie, Fanny Joussenet, qui a un sens de l'organisation fantastique. Je pense que sans elle, là, le projet n'a pas pu prendre la forme qu'il a pris. Donc, on s'est retrouvés autour de la table avec une conseillère technopédagogique. Là, tranquillement, le projet a commencé à prendre forme. Cette idée-là d'un cours, qui serait un cours multidisciplinaire, où les différentes disciplines collaborent pour initier les étudiants aux enjeux de l'intelligence artificielle.
D'accord.
Et ce qui, moi, particulièrement m'intéressait dans ça, c'est que, bon, il y a des excellents cours au niveau collégial qui sont montés là, de plus en plus sur l'éthique de
Oui,
l'IA,
sur
des
l'éthique,
choses.
effectivement.
Et puis, par contre, là, ce que je voyais comme originalité, c'était véritablement que les étudiants allaient pouvoir toucher un peu à c'est quoi l'intelligence artificielle. Je reviendrai probablement tout à l'heure là, avec l'aspect vraiment beaucoup plus pratique. Donc là, tranquillement, ça prend forme. On a une idée. S'il y a vraiment les disciplines, la sociologie, l'éthique, ça allait de soi. Moi, je ne voulais pas répéter non plus ce que je faisais dans mon cours déjà d'éthique. Et ça me tentait aussi d'aborder des questions philosophiques un peu plus larges sur la question de l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence, etc.
Oui.
C'est quoi la différence entre l'intelligence, la rationalité, bon, puis les enjeux sociaux, tout ça. Donc là, on s'est assis. Vraiment, tout ça commence là, automne 2019. Là, on l'appelle le projet est fait, on s'assoit autour de la table et là, on commence à. Ben, la fin du projet est en train de se faire. Il est en train de se faire parce qu'il faut
OK.
d'abord préciser exactement quel angle on veut aborder. Je ne l'ai pas mentionné, mais ce projet-là était aussi en collaboration avec l'Université de Montréal. Donc, l'idée de
D'accord.
base, c'était vraiment de monter quelque chose avec l'Université de Montréal qui aurait pu se donner aussi bien au niveau collégial qu'au niveau universitaire, comme cours au choix, comme bon. Par la suite, les choses se sont. Avec le travail, tout ça, les choses se sont, j'allais dire, un peu. Les deux projets se sont un petit peu séparés, se sont un petit peu éloignés pour différentes raisons, des raisons d'ordre pratique, des raisons techniques, etc. Mais si on regarde au niveau du Cégep Saint-Laurent, là, on avait quand même une bonne ligne directrice et on a commencé à s'asseoir pour essayer de voir de quoi aurait l'air ce cours-là. Le gros défi, c'était véritablement de monter un cours qui allait quand même présenter une unité en l'intérieur de ça. Pour se trouver un fil conducteur, on a parti de ce à quoi on veut amener les étudiants. Et là, véritablement, quelle serait l'épreuve terminale? Et
Ah, donc, il y a vraiment ça, c'est une épreuve terminale qui serait commune à toutes les disciplines en fait du programme, donc en sociaux, dans l'unité de Monsieur, je pense, Gosselin, qui est Internet et robotique, et dans l'unité de philosophie.
En fait, l'idée, ce serait de pouvoir vraiment intégrer ces trois aspects-là de façon très concrète. Et notre point de départ, c'est de dire, et si on faisait un colloque? Donc, à la fin de la session, les étudiants en équipe doivent nous présenter. Donc, on les met là, dans une sorte de mise en situation. Il y a une ONG, un organisme non gouvernemental, et ils présentent devant cet organisme-là, fictif, bien sûr, là, une technologie d'IA qu'ils se seront appropriés, Et ils doivent nous présenter cette technologie-là, ses enjeux sociaux, ses enjeux éthiques, peut-être ses problématiques, aussi les aspects techniques, donc comment ça fonctionne un peu, et tenter de montrer qu'ils ont tenu compte d'un certain nombre de d'enjeux pour défendre leur technologie devant un juge qui avait un comité, on pourrait dire un comité d'experts qui sont leurs pairs, les autres étudiants et les enseignants.
OK. Donc, ce que je comprends pour reformuler un peu tout ça, c'est qu'on a des disciplines qui vont permettre aux étudiants de trouver tous les éléments essentiels pour le montage de leur projet et aussi la validation de leur projet dans le cadre d'un colloque fictif, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont jusqu'au bout de leur projet, puisqu'on leur demande aussi de défendre les aspects techniques, c'est-à-dire qu'ils doivent effectivement définir le projet et aller jusqu'au prototypage, si je comprends bien.
En fait, ici, là, on s'entend bien, on parle de technologies existantes. Donc, quelqu'un pourrait arriver, par exemple, la première session qu'on a donnée, il y a une équipe qui s'est attaquée à l'algorithme de Tinder, l'application de rencontre. Et puis là, nous ont, bon, juste pour vous mettre un peu en contexte, nous ont présenté un peu comment fonctionne l'algorithme, comment les informations sont cueillies, comment elles sont traitées. Ils nous ont montré aussi des enjeux un peu problématiques, etc. Et comment ils comptaient, eux, pouvoir améliorer ces aspects-là. Donc, donc mettre des garde-fous ou certaines balises etc., pour contrecarrer peut-être certains effets pervers. Je dois vous avouer que ces présentations-là sont toujours très, très intéressantes. Moi, j'en apprends. Oui, oui, j'en apprends. Là, je pense à Tinder parce que justement, là, je trouvais ça un peu spécial la façon dont l'algorithme s'y prend pour faire des parages ou des choses comme ça. Donc, même les humeurs peuvent servir de point de rencontre. Et je trouvais ça particulier. J'ai oublié de mentionner par contre, ce cours-là est un cours complémentaire. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. C'est un cours qui s'adresse à tous les étudiants. De toutes les disciplines. Donc, dans la classe, on se retrouve avec des étudiants en musique, on se retrouve avec des étudiants en soins infirmiers, on se retrouve avec des étudiants de différents horizons. Et donc, là, eux, bien entendu, certaines technologies vont plus les rejoindre. Les étudiants en musique, ils ont fait entendre des œuvres composées par des IA ou des choses comme ça. Et ça les amène à réfléchir également sur l'impact de ces technologies-là sur leur propre domaine d'études. Et c'est un aspect qui est vraiment intéressant.
Je trouve ça fabuleux. Ça me donne même envie de retourner au cégep pour eux. Mais c'est vrai, parce que là, en fait, au-delà de... Parce que c'est ça, le sujet, c'est comment, en fait, on a approché le sujet de l'intelligence artificielle, mais comment on va l'enseigner aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue sociétal, mais aussi comment on va comprendre ce qu'il y a un peu dans la machine. Ce qu'on retrouve généralement dans les cours d'éthique ou des cours d'approche, c'est généralement des cours très théoriques pour la connaissance, en fait, des limites, des enjeux, etc. Mais souvent, la technologie, on ne peut pas se l'approprier parce qu'on ne la connaît pas. Ici, je sens que dans ce programme-là, ce qui vient compléter le tout et consolider l'objectif, c'est cet aspect aussi pratique. Alors, tu disais tout à l'heure que tu allais nous parler justement de cet aspect pratique. Jusqu'où vous allez dans cette praticité?
Oui, effectivement. Donc, pour arriver puis parler concrètement de l'intelligence artificielle, il faut savoir minimalement un peu comment elle fonctionne. Et là, excusez-moi, j'en parle avec enthousiasme, je me sens un peu comme un vendeur. Mais je dois avouer que moi-même, j'ai été surpris par plusieurs aspects du cours et cette... Donc, les étudiants sont amenés, en début de session, je leur dis, quand on me présente le plan de cours, ces choses-là, cette session-ci, vous allez entraîner votre propre réseau de neurones. Et là, tout à coup, là, j'ai deux réactions. Il y a ceux qui, vraiment, là, se sentent comme le docteur Frankenstein, ils vont créer la créature. Et puis, bien sûr, ça les effraie. Mais en fait, c'est un laboratoire qu'a monté Pierre-Marc où les étudiants sont amenés à entraîner un réseau de neurones qui est déjà existant, là. Donc, ils n'ont pas à faire de la programmation, mais ils vont avoir quand même à toucher au code. L'idée de base, pour l'instant, de le laboratoire, la forme qu'il a, c'est qu'on doit entraîner un réseau de neurones à distinguer différents objets. Comme des fois l'ordinateur nous demande là, pour reconnaître si nous sommes un robot, il dit identifier les voitures dans cette
Les
image.
captcha et tout ça.
Oui, exactement. Donc là, ils doivent entraîner une IA à distinguer entre des maisons et des voitures. Donc, la première étape, c'est que les étudiants doivent créer leur propre banque de données. Donc, on les envoie avec un appareil photo, leur téléphone, tout ça, prendre des photos de voitures, prendre des photos de. Et pour pouvoir nourrir cette IA-là, un coup que c'est fait, ben, à ce moment-là, ils vont pouvoir entraîner leur IA et jouer un petit peu dans les paramètres pour, par exemple, augmenter les niveaux de neurones, le seuil de bascule, etc. Donc, les concepts qu'ils ont vus de façon un peu théorique, là, ils peuvent les manipuler pour voir l'effet que ça a sur l'apprentissage. Et rapidement, ils se rendent compte que, par exemple, juste pour une tâche aussi simple, la quantité de données que ça prend est assez impressionnante. Et aussi, c'est juste pour l'anecdote encore, la première session, il y a un groupe d'étudiants, je ne sais pas si je dois dire particulièrement astucieux ou particulièrement paresseux, moi, qui avait décidé que plutôt d'aller prendre des photos de voitures, il allait aller sur Internet, sur un site d'un concessionnaire de voitures, et aller chercher leurs images là. Donc, créer la banque d'images plus rapidement. Sauf qu'au moment de l'expérimentation, ils se sont rendus compte d'un effet pervers de leur choix, c'est que les voitures étaient tous photographiées dans le même angle. Donc, à partir du moment où on présentait à l'intelligence artificielle une voiture qui n'était pas sous l'angle qu'il était pas capable de reconnaître. Et ça, c'est vraiment anecdotique, mais ça montre bien aussi, des fois, les limites que peuvent avoir certaines intelligences artificielles ou, en général, et l'importance aussi des données. L'importance des données. Un aspect comme ça, là, je vais rebondir un peu sur la multidisciplinarité, un aspect comme ça, l'importance des données, ben, c'est aussi quelque chose qui va être abordé en sociologie. Et puis, c'est également quelque chose qui peut être récupéré au niveau, là, quand on parle au niveau de la philosophie, au niveau de l'éthique aussi, là, c'est le choix des données, la conservation des données, etc.
Justement, ça me permet de rebondir. Si j'allais te demander plus spécifiquement dans ta discipline qui est la philosophie, qu'est-ce que tu abordes avec ce programme qui te permet en fait de couvrir une partie du programme? Quels sont les points en fait que tu abordes et qui enrichissent justement ou peut-être qui permettent aussi aux étudiants d'être captés autrement que si les sujets étaient délivrés de manière traditionnelle.
Bien, en fait, ça, c'est quelque chose qui nous préoccupait beaucoup, hein, dans la mesure où on devait amener un aspect pratique à chacune de nos dimensions. Comme par exemple, tout à l'heure, je te disais que je voulais pas aborder uniquement l'aspect purement éthique de l'IA, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux philosophiques autour de l'IA. Et puis, je voulais aborder quelque chose sous l'angle un petit peu de la philosophie de l'esprit, la pensée, etc. Donc, je me suis approprié une partie des notions qui auraient pu être abordées aussi et qui sont abordées également par l'informatique, qui est la notion d'algorithme, d'ordinateur, pour amener cette idée-là. Par exemple, je présente le concept de machine de Turing, qui est un concept très abstrait, qui est le concept qui est à la base même là, de l'ordinateur, cette idée-là. Et puis, un exercice qu'on fait, c'est que une machine de Turing peut être réalisée de toutes sortes de façons. Et moi, ce que je fais, c'est que je transforme la classe en machine de Turing. Les étudiants, une machine de Turing, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent un peu moins, là. C'est un modèle abstrait qui permet de À partir d'informations, c'est très simple. Il y a une tête de lecture, une tête d'écriture. Il y a aussi ce qu'on appelle une table de transition, je ne vais pas aller trop, qui est dans le fond une sorte de programme qui est exécuté par la machine. Et là, les étudiants, eux, reçoivent les données. Ils ne savent pas de quoi ils sont en train de faire. Et chaque étudiant a une sorte de rôle. Pas chaque étudiant en particulier, on va diviser la classe en groupe. Et puis, ils vont traiter de l'information. Ils traitent de l'information et là, vont arriver à un résultat. Sauf que eux, tout ce qu'ils font, c'est faire des actions très, très mécaniques. Écrire 1, effacer 1, écrire 0, tasser la tête de lecture, etc. Et donc, ils se mettent à la place, en fait, la classe devient une sorte d'ordinateur. D'ailleurs, c'était ce que je faisais la semaine dernière dans mon cours, justement, et j'ai eu une réaction qui est exactement la réaction que j'avais espérée. Les étudiants ont fait la tâche et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et là, il y avait un résultat, il y avait une entrée, et là, tout à coup, ils ont pris conscience qu'ils venaient de faire une opération mathématique. Une opération mathématique très simple. Donc, il avait fait une opération sur des nombres binaires. Il ne savait pas du tout qu'est-ce qu'il faisait, mais il le faisait de façon comme fait l'ordinateur. Donc, c'est cette idée-là que l'ordinateur travaille sur un processus aveugle. Bon, donc là, ici, on incarne ça. Bon, ça, puis après ça, on s'amène à se questionner, bon, qu'est-ce que l'intelligence... si l'intelligence est la résolution de problèmes, effectivement, et ici, on a affaire à une résolution de problème, on a affaire à un processus intelligent. Par contre, on n'est pas en train de réfléchir sur les buts, nous ne sommes pas en train non plus de donner un sens à ces choses-là, nous sommes en train d'opérer sur des symboles. Donc là, tout ça permet d'amener la discussion sur est-ce que les machines pensent, est-ce que les machines peuvent penser. Donc on reste avec Turing, on reste avec... Et puis, voilà. Donc ça, c'est un aspect de la philo. Et quand je vais les revoir, on continue avec les algorithmes. Mais cette fois-ci, on se questionne sur est-ce que les algorithmes sont neutres en termes de valeur? Est-ce qu'ils sont neutres? Donc, les choix que font les concepteurs, est-ce que... Bon, voilà. Voilà un peu, là. Et là, encore une fois, ils vont avoir un exercice à faire. Je leur fais imaginer qu'ils auront vu entre-temps avec le professeur d'informatique, ils auront vu différents algorithmes d'IA, différentes façons de programmer une IA, d'aller chercher de l'information, de traiter de l'information. Donc là, je leur demande, toujours en équipe, d'essayer d'imaginer une IA qui produirait la meilleure pizza au monde. La pizza idéale. La pizza idéale. Et là, bon, ils vont sortir certains concepts qu'ils ont vus en informatique, des choses comme ça. Pour se rendre compte assez rapidement que la meilleure pizza, ça dépend. C'est la meilleure pizza pour qui?
Pour qui?
Eh oui, c'est ça. Est-ce que c'est la meilleure pizza pour le marchand, celle qui va se vendre le plus? Est-ce que c'est la meilleure pizza pour le nutritionniste, celle qui va être le... Bon, donc c'est un peu ça. Et là, ce que j'espère, c'est qu'on voit un peu comment les différentes disciplines vont se rencontrer, vont communiquer entre elles. Parce que c'était ça le défi aussi, là. C'est de se dire comment on allait organiser ça pour que les disciplines puissent se chevaucher, s'enrichir mutuellement.
Oui.
Et que les étudiants puissent voir ce lit-là.
Oui, c'est vrai. Ce que j'aime bien, ce que tu viens de dire, c'est comment, en fait, les disciplines communiquent entre elles. Puis je suppose que c'était ça aussi l'enjeu le plus difficile à faire. Je comprends aussi que, et là, c'est plus l'aspect, en fait, de collaboration avec les collègues. Comment ça s'est... Est-ce que tu penses aujourd'hui, parce qu'il y a déjà eu une première cohorte pour ce projet, est-ce que tu penses que ce projet a permis aussi de faciliter les collaborations avec des disciplines dont tu n'aurais pas nécessairement, peut-être que socio, philo, dans le bâtiment des sciences, je ne sais pas comment c'est organisé à Saint-Laurent, mais peut-être que vous aurez eu à vous rencontrer, mais pour le fameux prof qui enseignait Internet et la robotique, est-ce que ça a facilité, est-ce que tu pourrais dire que ça a facilité justement ce travail d'interdisciplinarité, le fait de rentrer dans un projet où vous étiez mené à réfléchir ensemble à comment faire le lien entre vos disciplines?
Bon, en fait, les trois personnes qui se sont retrouvées autour de la table au départ ne se connaissaient pas.
Ah,
Ne se
ok,
connaissaient
déjà.
pas. Déjà, on ne se connaissait pas du tout. On s'est vraiment retrouvés là. Et puis, ça a donné lieu vraiment, d'une fois, des discussions très, très intéressantes. Pour précision, on est rendu à la troisième cohorte. Par contre, c'est la première cohorte, cette session-ci, où les deux autres enseignants fondateurs ne sont pas avec moi. Donc, j'ai un nouveau prof de sociaux, j'ai un nouveau prof d'informatique, là, cette session-ci. Et puis, mais nous, pour assurer justement la cohésion, puis ensuite, pour se connaître, parce que on s'était co-enseigné chacune de nos parties. On a travaillé ensemble pour monter le plan de cadre, ensuite le plan de cours, mais en même temps, même si ça, c'était un travail qu'on a vraiment fait tous les trois autour de la table, on voulait savoir précisément qu'est-ce que les autres présentaient pour être capable d'être complémentaire, éviter les redondances, etc. Donc, on s'est co-enseigné le cours. Cette session-ci, comme je te disais, c'est la première fois qu'il se donne, mais sans les enseignants d'origine. Et ça, pour nous, c'est important, dans la mesure où ce projet-là, à la base, est un projet qui doit être partagé. Tout le matériel qu'on a monté, aussi bien plan de cadre, plan de cours, même du matériel des exercices et des choses comme ça, c'est ouvert. C'est ouvert, c'est disponible, c'est ouvert à la communauté. On a monté un Moodle auquel tous ceux qui sont intéressés peuvent y accéder.
On pourra partager effectivement les ressources avec le balado.
Et donc là, cette session-ci, c'est la première fois que d'autres enseignants tentent de se l'approprier. Ça fait, donc là, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Ben, en fait, naturellement, les deux autres enseignants qui travaillent avec moi ont décidé d'assister au cours des autres. Parce que le cours, bien entendu, on n'est pas toujours tous les trois dans la classe. En début de session, on l'est, mais ensuite, il y a des parties vraiment philosophiques. Bon, mais là, c'est le prof de philo. Et là, on a essayé d'agencer. Et en fin de session, quand on arrive à la préparation de l'épreuve terminale, bien là, on est de nouveau tous les trois. Mais sinon, bon, ben, quand le prof de sociaux présente sa partie, par exemple, sociologie du travail, généralement, il est seul en classe avec ses étudiants. Mais là, ce qu'on fait cette session-ci, c'est que les deux autres enseignants assistent, un peu comme des étudiants.
Oui, c'est ça.
C'était leur propre
Et ça,
choix.
il a un cours enseignement, comme tu disais.
Ben, en fait, il y a des parties qui sont effectivement, là, comme on parlait de l'épreuve terminale, là, on est vraiment collaboratif, en co-enseignement, on travaille, on rencontre les étudiants ensemble, les trois disciplines, etc. Mais il y a des parties quand même qui sont plus appropriées et propres à chacun des enseignants, où là, les autres enseignants ne participent pas. Quand je dis ne participent pas, je mets des guillemets là-dessus, parce que quand même, ils ont fait partie du processus de création. Donc, il y a cet aspect-là. Quand moi, je dis, je vais à Pierre-Marc, qui était le prof d'informatique, je dis, ben, moi, je pense que je vais garder la petite section algorithme, tu sais, présentée de façon générale. Ben, on s'entend là-dessus.
D'accord.
Pour éviter
Alors,
les doubles langues.
je comprends donc, et ça c'est vraiment pratique, c'est juste dans mon idée, parce que je parlais d'une évaluation commune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une évaluation formative où je suppose que... Comment ça se passe en termes d'évaluation? Est-ce que ça veut dire qu'il y a trois notes pour trois disciplines la même ou comment vous avez organisé ça dans le montage?
Bon, en fait, là, effectivement, là, il a fallu faire des choix, là, et puis on est au collégial, il faut rendre des notes
C'est
écrites.
ça,
Bon, on a chacun, pour chaque discipline, il y a une petite évaluation qui est faite en cours de session. Ça peut prendre différentes formes. En sociologie, c'est un journal de bord. Pour l'informatique, ben, c'est le laboratoire dont je t'ai parlé plus tôt. Donc là, ils sont notés sur la qualité de la cueillette d'informations, sur le. Et puis en philosophie, ben, je leur passe un petit examen pour les amener à réfléchir sur les différents aspects qu'on a vus, aussi bien là, la question de l'intelligence artificielle aussi, et les questions de l'arrimage éthique. Donc, ça, c'est un aspect, chacun, là, une petite évaluation qu'il fait. Mais en fin de session, l'évaluation globale est notée par les trois enseignants. Donc, les étudiants ont à fournir un rapport. Donc, ça, ce rapport-là est déjà, C'est des comme on pourrait dire, c'est comme des cases à remplir. Ils ont des, c'est comme tu fais un appel de projet. Bon, mais il y a des donc là, ils sont mis en situation un petit peu, là, donc ils nous présentent leur technologie, il y a un rapport un peu, mais aussi il y a une présentation orale. Ça compte pour comme 40% de la session, là. C'est vraiment cette présentation terminale. Au début, quand on a pensé, on avait dit les étudiants auraient le choix de la technologie qu'ils veulent. C'est présenter vraiment une technologie. Par contre, on s'est rendu compte assez rapidement que l'accès à l'information, des fois, est difficile. On trouve beaucoup, beaucoup de choses sur Internet, mais la documentation scientifique, la documentation... Ça fait qu'on est obligé de monter une banque de ressources. Et ça, cette banque de ressources-là est toujours en évolution.
Bien sûr. Je comprends qu'en fait, le cours, au fur et à mesure, ben, vous, c'est comme un peu le tester. Et là, comme vous en êtes à la troisième cohorte, il y a des ajustements qui sont faits. Notamment, je pense que la première fois, après leur avoir demandé de développer la technologie, ou du moins de s'intéresser à la technologie qu'ils voulaient, vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas assez de ressources et vous avez ajusté ça pour la deuxième cohorte, si je comprends bien.
Non, ça, déjà, on l'avait ajusté dans la première, quand on a commencé là, à vouloir, parce qu'on avait essayé de... mais juste pour parler d'évolution, oublions pas que lors de la première cohorte, on parlait même pas encore de ChatGPT. En décembre de la deuxième cohorte, le cours se donne à l'hiver, il se donne présentement, et je me rappelle, au mois de décembre, presque à l'arrivée de la deuxième cohorte, j'ai reçu un message Team par... Pierre-Marc Gosselin, qui me dit, c'est arrivé. Et là, on avait vu des préludes à tout ça. Là, c'est arrivé. Et là, on est allé voir ça. Là, un peu comme tout le monde, on disait, oh, il va falloir intégrer ça. On ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas. Et là, rapidement, ben, Pierre-Marc il a dit, bon, mais on va aborder ça aussi. On va essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a de particulier. Hey, ces modèles de langage, comment ils fonctionnent, tout ça.
C'est un corset pour la CLIO ou pas? Toute la question par rapport à la rationalité, qu'est-ce que l'intelligence, la pensée critique, où ça a permis justement d'avoir un véritable cas d'usage qui permettait de pouvoir donner un peu plus de profondeur, je dirais, dans la compréhension de ces notions.
Ah non, ben, si on parle uniquement en termes du cours, moi j'ai vu ça comme un cadeau.
Oui.
Bon, c'est sûr que là, les autres aspects, là, ça, on pourra
Oui.
discuter longtemps. Et on en discute aussi encore. Mais parce qu'effectivement, ça rendrait concret certains aspects qu'on abordait. Je te parlais tout à l'heure que j'abordais la machine de Turing, j'abordais aussi Turing sous l'angle du test de Turing, le fameux test, là. Et là, tout à coup, on était face à une bibitte qui était susceptible peut-être de passer ce test-là. Et là, ça, c'était... Donc, c'est quelque chose qui a permis de s'arrimer. Et ça aussi, ça a montré peut-être que le cours, ça a été un bon test pour le cours, dans la mesure où on veut que, même si ça évolue très rapidement, on veut que la structure, l'ossature globale du cours soit quelque chose qui soit assez stable. Soit, justement, qu'on ait touché assez... à, je mets ça en guillemets, l'universel, donc on a touché au concept de base, que peu importe l'évolution de la technologie, bien sûr, il va falloir s'adapter au cas, il va falloir, mais qu'on va avoir des outils d'analyse qui sont efficaces à travers le temps. Donc, ça veut dire que les concepts qu'on développe, les concepts qu'on aborde, sont des concepts qui vont également pouvoir être pertinents malgré l'évolution exponentielle de ces technologies-là.
D'accord. Et bah maintenant, je voulais m'intéresser au retour des étudiants ou au retour aussi des enseignants. Bon, tu as fait partie de l'équipe qui ont non seulement pour les enseignants préparé le cours et qui ont donné ce cours, mais aussi du côté des étudiants. Est-ce que vous avez eu des retours?
Oui, ben en fait, comme ici, là, c'était véritablement un projet de recherche, on s'est assuré de faire un retour. On a passé des questionnaires, on a compilé aussi des résultats pour voir la perception des étudiants de ce cours-là. Parce qu'on ne se le cache pas, la première fois qu'il a été donné, puis même encore à l'actuel, c'est un cours complémentaire. Donc, c'est les étudiants qui choisissent. Et la première cohorte, personne, c'était son premier choix. Donc, ces étudiants-là se sont retrouvés devant un cours qu'ils ne connaissaient pas, dont ils n'avaient jamais entendu parler. C'était la première fois qu'ils se donnaient, etc. Donc, leur opinion était quand même assez importante. Et les retours sont assez bons. Les retours sont bons. Si on pose la question, par exemple, est-ce que vous jugez que c'est pertinent? À peu près à 70% sont d'accord pour dire que c'est pertinent. Parce que bon, donc, les retours ont été assez positifs. Et puis là, on se rend compte, de la fois, on pose la question, je disais, quelle partie? Puis là, ça varie. Il y en a que c'est la partie sociaux qui ont trouvé là, vraiment, il y en a d'autres. Donc, ça a été assez bien reçu. Il y a des petites critiques, là, mais en général, on était assez content de la réception des étudiants du cours.
Tu l'as dit tout à l'heure, il y avait les ressources. Alors, ces ressources-là, c'était dans le cadre d'un projet. Tu disais que c'était ouvert, en fait, à la communauté. Donc, dans cette ouverture-là, je comprends que c'est aussi un cours qui est optionnel. Moi, je t'avoue, avec un peu ma vision un peu macro de ce qui se passe sur le réseau collégial et le réseau de l'enseignement supérieur, je me dis, ah, mince, j'espère qu'il arrivera à un niveau où ce sera un cours dans, je sais pas si je peux dire cours obligatoire, mais en tout cas, un cours incontournable permet d'aller aborder plusieurs sujets qui sont importants dans la compréhension aussi de ce monde toujours en perpétuelle évolution et notamment l'usage des technologies. Premièrement, est-ce que vous vous êtes fait approcher par d'autres établissements qui étaient intéressés à tester aussi? Et quel est l'avenir ou je dirais les avancées par rapport à ce projet et les choses qui ont peut-être moins marché?
Depuis qu'on a présenté le cours, par exemple, on a fait une présentation du QPC l'année dernière et on a eu une assez bonne réception. Et bon, on a été amené à présenter le cours dans différents lieux, collèges, universités, bon, mouvements de conseil pédagogique, ces choses-là. La réception semble assez bonne. En fait, le fait que le cours est un cours transdisciplinaire, c'est quelque chose qui vraiment là, semble innovant. Je dois avouer que nous-mêmes, on est un peu surpris là, souvent, on nous dit, mais comment vous avez fait pour monter ça? Nous, on ne s'est jamais vraiment posé la question. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux à un tel cours, ne serait-ce que pratique. Pour que le cours puisse se donner, puis là, on est à la troisième cohorte, ça demande quand même beaucoup de ressources.
Quel type de ressources, Michel?
En fait, ici, c'est que, bon, on va parler pratico-pratique.
Ouais.
Pratico-pratique. On a un cours qui est donné par trois enseignants. Donc, imaginons qu'on donne un cours, la tâche, en parlant en termes de tâche, je me retrouve avec un tiers de cours. Si on me rajoute uniquement un tiers de cours dans ma tâche, je veux dire, je ne suis pas nécessairement payé de. Donc, pour que le cours soit rentable, excusez-moi l'expression, pour qu'il puisse se donner, il faut qu'il se donne à trois groupes.
Ok, je
Il faut
comprends.
qu'il se donne trois fois. Et ça, là-dessus, là, je dois ici remercier beaucoup, beaucoup notre nouveau directeur des études, quelqu'un qui est arrivé et que ce projet-là existait, qui l'a continué à le soutenir. Parce que les deux premières années, c'était pas vraiment possible d'avoir trois groupes. Donc, il a quand même trouvé un moyen de financer. Donc, c'est Éric Saint-Jean qui est arrivé, qui a dit, bon, oui, ce cours-là, oui, je pense qu'il est important, puis on va continuer à le donner. Là, cette session-ci se donne à trois groupes. Donc c'est vraiment un enjeu purement pratique. Puis encore au niveau pratique, dans la plage horaire, si moi, en tant qu'enseignant, si je suis à temps plein, j'ai mes cours, donner ce cours-là, ça m'enlève un cours, mais j'ai trois endroits dans ma plage horaire qui sont remplis. Faire les horaires, ces choses-là, c'est
Oui.
plus complexe. Plus complexe.
D'accord. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des avancées de ce projet? Est-ce que pour vous, ça y est, le cours, il est fait, il est bouclé, il se donnera comme ça pendant X années ou vous avez d'autres projets autour de ce cours?
Le cours va toujours avoir des ajustements. Moi, cette session-ci, j'ai modifié des choses. Bon, je pense que il y avait un philosophe Dennett, qui disait si tu enseignes la même chose depuis 10 ans, de deux choses l'une, soit que ta discipline est morte, soit que tu es mort. Oui, je pense qu'il va y avoir, malgré que je parlais tout à l'heure qu'il y a un noyau, il y a toujours de l'évolution. Nous, on veut s'assurer quand même, si on regarde au Cégep Saint-Laurent, d'une certaine pérennité de ce cours-là. Parce que dans l'offre des cours complémentaires, là, il va falloir qu'ils soient officialisés. Ça, c'est quelque chose qui est plus technique. On espère bien également que d'autres cégeps vont tenter l'expérience. Parce que ça serait vraiment intéressant de pouvoir échanger avec d'autres collègues qui tentent de mettre en place la même chose. Nous, personnellement, on a aussi d'autres, cette session-ci, on a un autre projet un peu en parallèle du cours. Donc, un coup qu'on s'est retrouvés tous les trois, ben on disait, bon, on va continuer à travailler un peu là-dessus. Et puis, présentement, on a un projet là, qui porte plus particulièrement sur l'intégration des modèles de langage en enseignement. Ça, c'est autre chose. Mais c'est le fait qu'on s'est rencontrés tous les trois, ben, ça nous a donné le goût de continuer à travailler.
C'est ça.
En fait, tout à l'heure, je parlais que à l'aube de dans mon jeune temps, dans mon enseignement, j'avais trouvé très enrichissant de pouvoir collaborer avec d'autres disciplines. Tous les trois, je pense que je peux parler au nom de mes autres collègues, on a été nous-mêmes surpris du plaisir, de l'enrichissement que ça apporte. De ces discussions-là. La semaine dernière, mon collègue de sociaux, à la fin du cours, il récitait mon cours à la fin du cours. Tu sais, là, il m'a fait quelques remarques et là, tout à coup, je me dis, ah mon Dieu! Puis là, je me rends compte à quel point c'est enrichissant des perspectives différentes et on espère que les étudiants le voient aussi. Ça, c'est une de nos craintes, que les étudiants soient déroutés par les trois disciplines. Et le fait que, quelquefois, justement, là, ils sont uniquement devant le prof de sociaux et la semaine suivante, ils sont devant le prof d'informatique. On se dit, est-ce que ça va les dérouter? Ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas certains étudiants qui ne le sont pas. Mais en général. Donc, pour revenir à ta question de base, là, nous, ce qu'on espère, c'est que le cours puisse continuer à se donner. Que d'autres collèges tentent l'expérience et l'enrichissent. Est-ce que c'est un cours qui pourrait être quelque chose qui rentrait plus dans le cursus normal? On peut rêver, là, mais...
Oui, on peut rêver. On peut rêver. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça, surtout ce qui m'a intéressé au-delà de l'usage de l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle beaucoup. C'est la pluridisciplinarité. Permet aussi, peut-être, éventuellement, aux étudiants de prendre, en fait, des fois des sujets, non pas de les isoler dans une discipline, mais de voir comment aussi elle peut se raccrocher à d'autres disciplines. Tout est un peu interconnecté. Donc, je trouve que c'est un bon moyen aussi d'aller développer chez eux des possibilités d'adaptation et d'interconnexion entre des sujets, parfois qui semblent isolés, mais qui sont reconnectés, qui donnent du sens. Moi, je trouve que c'est ce qui m'a interpellée beaucoup dans ce projet. On arrive déjà à la fin de cette rencontre et j'aurais aimé en fait en savoir plus, mais vraiment mais là, en savoir plus, on va pouvoir partager avec les auditeurs les ressources, comme tu disais, qui vont leur permettre peut-être d'aller voir comment c'est constitué, les unités, etc. Parce que ça paraît être aussi un travail monstre en termes de scénarisation, en termes de construction du cours. Donc, ça va être très intéressant pour les auditeurs d'aller voir ça. Toi, en tant que professeur de philosophie, on a souvent dit que la philosophie, c'était un sujet qui était vieillissant. Et il y a certaines institutions qui se posent encore la question, est-ce qu'on devrait enseigner la philosophie, etc. Et je trouve que c'est un très, très bon exemple d'avoir, en fait, placé la philosophie. Ça aurait pu être un autre enseignant, tu penses pas, qui... Il y a peut-être cette question d'éthique, mais ça aurait pu être un projet pluridisciplinaire qui prendrait la socio, j'imagine, l'informatique et peut-être une autre matière. Comment toi, tu as réussi à faire ta place? Je pense que tu parlais en fait de cette notion d'éthique que tu abordais déjà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on est venu te chercher. Mais est-ce que tu sens en fait cette importance pour la discipline qui est la philosophie de se positionner avec les technologies dans des angles éthiques où on peut dire plein de choses qu'on n'a pas encore vues? Est-ce que c'est une utilité, notamment aujourd'hui dans nos programmes, d'aller rechercher justement des connexions avec la technologie?
Je pense que juste à partir de la réaction que l'apparition des modèles de langage comme ChatGPT a fait, et puis justement à quel... Je pense que les disciplines, par exemple, comme la philosophie et d'autres, etc., sont senties très interpellées par ça. Et puis, on a vu sur la place publique beaucoup de gens avec une formation en philosophie, ces choses-là, avoir un discours et montrer la pertinence du discours philosophique par rapport à ça.
Oui. Ben, écoute, en tout cas, moi, je vous souhaite encore plein de succès. J'espère qu'il y aura des cégeps qui auront en fait cette opportunité de pouvoir l'intégrer.
Mais aussi, dans le cas échéant, effectivement, et c'est un cours qui peut, comment je pourrais dire, quand on a accepté de mettre le matériel en ligne, tout ça, ça a pris une certaine humilité. Ça a pris l'humilité de savoir que cette chose-là, ben, c'est quelque chose de perfectible, c'est quelque chose qui est de choix, etc. Et puis on a dit, bon, ben, voilà, on se lance, on met le bateau à l'eau, et c'est aux autres de se l'approprier.
Donc, ça veut dire que c'est une sorte de créative de document ouvert qu'un groupe d'enseignants peut s'approprier et puis le refaçonner à l'image de ses besoins ou du moins en réponse à ses besoins. Mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Michel, pour ce partage et longue vie à ce projet qui, on peut en rêver, j'espère en tout cas, deviendra un incontournable.
Ben en tout cas, merci à toi de nous offrir cette vitrine, puis bonne continuité.